Bienvenue dans Spam.
C'est un programme qui permet de savoir, un peu tout.
Internet ! Je sais pas.
Ce qui est formidable sur Internet, c'est qu'on peut s'y raconter des choses super intéressantes.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Spam, l'émission des internets et du numérique sur Radio Pulsar au 95.9 et sur radio-pulsar.org. En ce jeudi 14 novembre, la working team de Spam va vous parler du travail 2.0, celui où on tape peut-être un peu trop sur son clavier, celui où décidément c'est une chance de pouvoir bosser de chez soi, celui dans lequel c'est toujours un peu mieux de savoir répondre à un mail. Bref, vous l'aurez compris, le thème du jour, c'est le travail à l'ère du numérique. Je vous ai parlé d'une équipe de travailleurs acharnés, mais je ne vous les ai pas présentés. Tout d'abord, nous avons Théo, qui s'occupera des news.
Salut !
Ensuite, nous passerons à la mise à jour de Florian.
Salut à tous !
Puis nous finirons avec Lucas, qui philosophera sur le sujet.
Coucou tout le monde !
Et on pense quand même à Denis, qui n'a pas pu être là ce soir. Quels sont les grands enjeux de la transformation numérique pour le travail ? Quels sont les impacts déjà visibles au quotidien ? À quoi ressemblera l'entreprise du futur ? Est-ce que le travail c'était mieux avant ? On va essayer de répondre à tout ça durant toute l'émission, mais avant ça, comme d'habitude, c'est l'heure des news de Théo. Google collecte désormais des données médicales de millions de patients aux États-Unis.
Le partenariat entre Google et Ascension, une organisation de santé mise en lumière par un article du Wall Street Journal le mardi 12 novembre, inquiète l'opinion publique. Baptisé Projet Nightingale, il prévoit de recueillir et d'analyser les données médicales de dizaines de millions de patients. L'objectif ? Aider les médecins à mieux déterminer les traitements et assurer une meilleure continuité administrative. Les informations collectées peuvent être les noms, dates de naissance, adresses, liens familiaux qui permettent l'identification des individus, mais il peut s'agir aussi de données en lien avec les antécédents médicaux, les analyses de laboratoire et les traitements actuels. Google déclare qu'il s'agit uniquement de gérer les données des patients en toute sécurité et en respectant strictement la vie privée. Il est prévu par la firme américaine de pouvoir mettre à disposition des outils utilisant l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité des traitements.
L'Assemblée adopte la surveillance des réseaux sociaux contre la fraude fiscale.
Les services fiscaux et douaniers ont, depuis le mercredi 13 novembre, le feu vert pour aspirer massivement les données des Français pour détecter les fraudeurs. Intégrées au projet de loi Finances 2020, les données récoltées pourront aller de la voiture achetée sur le Bon Coin à la photo de vos vacances, peut-être un peu trop chère pour vous, au Club Med de La Rochelle, partagée sur Instagram. Les réseaux sociaux concernés par cette surveillance sont Facebook, Instagram, Twitter, Le Bon Coin ou encore eBay. La Commission nationale de l'information et des Liberté, la CNIL, juge ce texte très intrusif dans la vie privée des internautes et l'avait dénoncé en septembre 2019. Ses arguments sont que si ces données sont librement accessibles en ligne, cela ne donne pas autant de droit à l'État de s'en servir pour organiser une collecte générale préalable. Ce dispositif est encore expérimental, cependant, il devrait être testé pendant une durée de 3 ans avant d'être ou non définitivement adopté.
Lancement d'un nouveau laboratoire de recherche sur l'intelligence artificielle au Futuroscope.
L'Université de Poitiers, le CNRS et l'Agence nationale pour la recherche, l'ANR, inaugurent le laboratoire MAC4 le 7 novembre au Futuroscope. Ce laboratoire est issu d'une collaboration entre l'équipe Robios, qui travaille sur la robotique, le Centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage, et ITK. Cette start-up en goût moisine est spécialiste de l'IA, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. L'objectif est d'allier ces technologies et de les mettre au service de l'industrie, notamment pour faciliter le traitement de données multiples générées par des machines et ainsi prendre des décisions adaptées. Le laboratoire MAC4 est soutenu par l'ANR à hauteur de 300 000 euros sur 3 ans. Il est situé au campus du Futuroscope de Chasseneuil à la faculté des sciences physiques, mathématiques, mécaniques et informatiques.
Merci Théo pour ta chronique. Je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table pour mettre en cause le rôle de Google dans le traitement des données médicales. Est-ce que Théo, tu pourrais me donner un petit peu des informations sur cette organisation de santé Ascension, qu'est-ce que c'est exactement ?
Eh bien, Ascension, en gros, c'est une organisation de santé qui a pour objectif de collecter ces données et en fait de les mettre à disposition. Après, de la mettre à disposition notamment des établissements, donc des hôpitaux. Et en gros, là où ça se joue principalement, ce qui fait un peu peur, c'est qu'en gros, ces données seraient stockées sur un cloud et en gros seraient après envoyées vers les établissements, vers leur propre intranet en fait. Et c'est notamment pendant cet envoi-là qu'il y a possibilité qu'elles soient piratées et qu'elles soient retrouvées par on ne sait qui en fait.
Donc, Lucas. Et puis on en parlait d'ailleurs à la dernière émission que voilà, la collecte de données, ça peut être assez facilement transformé en manne financière, d'autant plus, c'est le cas d'autant plus que Google est un énorme groupe d'entreprises et ils ont les moyens d'accumuler des quantités de données absolument colossales. Et ça pose évidemment problème au niveau du secret médical. Je trouve ça vraiment très bizarre que ça puisse se faire aussi facilement.
Après, il y a Tariq Shaukat, qui est le président des produits et solutions de Google Cloud, qui est un peu un porte-parole de ce projet-là. Il dit les données des patients ne peuvent pas et ne seront pas combinées avec des données de consommateurs Google. Donc, normalement, l'objectif n'est pas de permettre de faire une publicité vraiment ciblée sur les personnes.
Alors, Lucas a réagi à ça, mais je voudrais savoir si d'autres personnes que Lucas ont réagi, genre dans le milieu médical, est-ce que ça a suscité des réactions, le fait que Google ait la main mise un peu sur ces données médicales ?
Alors, la question dans le médical n'a pas été trop reprise. J'ai surtout vu, dans les journaux, c'était vraiment les journaux en eux-mêmes, leur édito, qui s'inquiétaient que le fait que, par exemple, des employés de Google auront accès à certaines données confidentielles sur des personnes et leurs antécédents médicaux. Après, j'avoue que j'ai pas eu de retour des gens du médical en particulier.
Ok. Est-ce que c'était un... Je pose la question aux gens qui sont autour de la table. Est-ce que c'était un domaine qui avait, comme ça, été massivement investi par les GAFAM, le médical ? Moi, j'ai pas du tout la réponse. Là, ici, du coup, ça commence avec Google, mais est-ce que, je sais pas, Amazon, Facebook avaient commencé à creuser dans cette direction ?
C'est vrai qu'il y a une plateforme qui est très importante, qui est Doctolib, où on peut prendre rendez-vous chez des médecins, on peut voir quand est-ce qu'ils sont ouverts. Je sais pas si elle appartient à une GAFAM. Laissez-moi le temps d'aller trouver, je vous dis ça plus tard.
Aucune idée, il y a aussi Keldoc, si tu peux faire les recherches. Je sais que c'est une plateforme un peu concurrente de Doctolib, je ne sais pas non plus à qui ça appartient, mais c'est un peu le même genre.
On sait que la santé, c'est des enjeux de base qui intéressent déjà beaucoup les GAFAM, il n'y a qu'à voir tout ce qui se fait du côté des objets connectés. On peut reparler vite fait aussi de l'Assemblée qui adopte la surveillance des réseaux sociaux contre la fraude. Est-ce que ce test, il va être à grande échelle ou sur une...
Ah oui.
Oui, c'est il est opéré à grande échelle.
Donc il a été voté, il n'est pas encore lancé, mais bon, on peut s'attendre à ce qu'il soit lancé sous peu, quoi.
Donc, ok. Et réaction, peut-être, de la part des plateformes ?
Évidemment, Facebook, enfin les plateformes en général, les plateformes qui sont ciblées, c'est notamment Facebook, Instagram, Twitter, Le Bon Coin et eBay. Elles sont plutôt dans un esprit de coopération avec le gouvernement sur ce point-là.
Ok, ça marche. Alors, pour vous introduire à un sujet aussi vaste que le travail à l'ère du numérique, quoi de mieux qu'une mise à jour offerte par Florian et Pulsaria ? C'est à vous.
Mise à jour en cours d'installation.
Alors bonjour à tous, me voilà de retour pour la mise à jour, la chronique qui vous connecte au sujet de l'émission et aujourd'hui nous allons parler de la transformation du travail par les nouvelles technologies. Alors comme vous le savez, je suis bien placé pour en parler puisque je réalise cette chronique en duo avec Pulsaria, mon assistante vocale virtuelle. Pulsaria, dis bonjour à nos auditeurs.
Salut les clous.
Eh ben tu es de bonne humeur cette semaine, pourtant à ta place je ne ferai pas trop la maligne après le raté que tu nous as fait la semaine dernière.
Pardon humain, c'est vrai que je n'ai pas trop brillé. J'avais l'impression d'être Internet Explorer qui tournait sous Windows Vista.
Ouais, tu m'étonnes, on n'en était pas loin. Mais bon, si tu es plus en forme cette semaine, on va pouvoir commencer la chronique peut-être.
Avec plaisir. D'ailleurs, j'aurais une question à vous poser sur cette question de travail et numérique. N'avez-vous pas peur à terme que je vous remplace sur cette chronique et donc qu'un robot vole votre travail ?
Alors merci pour ta compassion, Pulsaria, mais on va remettre les choses au clair. Hein. De une, faire cette chronique n'est pas mon travail, donc au final si tu me le voles, ce n'est donc pas réellement un problème. De deux, tu étais à la base programmée pour faire cette chronique toute seule, donc au final ce ne serait pas non plus un problème. Et puis de trois, vu la performance que tu nous as servie la semaine dernière, je pense que j'ai du temps avant de m'inquiéter. Mais bon, tu soulèves là une question intéressante, celle du chômage technologique. Bon, alors malheureusement, j'ai pas eu autant de temps que je voulais cette semaine pour faire des recherches approfondies, puisque aucun robot n'a encore volé mon boulot, mais de ce que je crois savoir, c'est que les robots n'ont pas encore volé tout notre travail. Hein. Certes, une bonne partie des postes de production constitués de tâches mécaniques répétitives ont été donnés à des machines, hein, mais remplacés pour les humains par des postes de surveillance et de contrôle de ces machines, de sorte de ne pas faire perdre trop d'emplois. Les robots prennent donc notre place sur des métiers pas forcément super rigolos, et puis un peu usants pour le travailleur. Enfin, ça, c'était avant, puisque avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ce sont de plus en plus d'emplois du tertiaire, hein, le secteur des services, qui sont touchés. On pense notamment aux robots qui arrivent pour faire du recrutement, hein, en observant nos mimiques de visage et nos émotions. Hein. Je ne sais donc plus vraiment où me poser sur ce tableau.
Eh bien, vous dépeignez une situation à venir en demi-teinte, ça ne fait pas très envie.
Oui, c'est vrai que sur la question du chômage technologique, j'ai du mal à vraiment peser l'impact tant positif que négatif des machines sur le travail. Cela dit, les nouvelles technologies ne s'arrêtent pas à ça, bien heureusement. Ainsi, le numérique nous permet de transformer notre façon de travailler et nous offre de certains points de confort nouveaux. Par exemple, on observe une démultiplication des applications facilitant le travail collaboratif, hein, comme Yammer, FreeCamp ou encore Slack, que nous utilisons pour gérer spam sur notre temps libre. Ces applications permettent de s'organiser, d'échanger en groupe sans pour autant avoir à se réunir physiquement, ce qui peut faciliter le travail, notamment associatif, qui prend place sur le temps libre des individus. Et puis ces outils-là et d'autres technologies comme les visioconférences favorisent le travail à distance entre individus de régions géographiques différentes. Ainsi, il est plus facile de s'organiser quand on travaille dans un grand groupe avec des antennes à différents endroits. Puis ça permet aussi de créer des entreprises décentralisées qui ont un pied dans les grandes métropoles et puis un autre dans des villes plus modestes. Enfin, le numérique permet aussi l'émergence du télétravail, c'est-à-dire des jours travaillés à distance depuis chez soi. L'employé emmène donc avec lui son poste de travail, hein, souvent un ordinateur portable, et se doit d'être joignable par téléphone au besoin. De quoi offrir un confort en réduisant le nombre de trajets domicile-travail, mais en facilitant aussi la garde des enfants, par exemple.
Là d'accord, vous me vendez un peu plus de rêves. Mais je crains que vous ne noircissiez encore le tableau.
Eh bien oui, je suis désolé, cher Pulsarien, mais en effet, tout n'est pas si rose, car l'arrivée des nouvelles technologies dans le travail au quotidien a aussi, d'une certaine façon, réduit la barrière entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Cela conduit donc à une confusion entre les moments où le travail doit être fait et les moments où il faut décrocher et profiter un peu de la vie, quoi. En tête des problèmes du genre, l'arrivée des boîtes mails sur nos smartphones, hein, nous donnant l'incorrigible envie de répondre à tout moment de la journée à nos mails professionnels. De quoi manger un peu de temps dans la vie de famille et détériorer les relations, par exemple. Cela pose donc une question réelle, celle du droit à la déconnexion que tout un chacun se doit d'avoir après une bonne journée de travail.
Qu'est-ce que je disais ? Vous êtes un peu rabat-joie sur les bords humains.
Je ne sais pas si tu es placé pour me traiter de rabat-joie, mais je pense qu'on pourra peut-être un petit peu nuancer les propos sur ces différents éléments dans la suite de Spam.
Merci Florian pour ta chronique. Théo, une réaction ?
Ouais, sur le télétravail. En fait, je trouve que c'est une question assez intéressante parce que ça permet de travailler à distance de son lieu de travail. Mais c'est bien pour la qualité de vie, je pense, pour les personnes qui peuvent se permettre, par exemple, d'être dans des petites villes et avoir son travail qui est, si finalement, il, par exemple, se trouve à Paris. J'ai notamment vu ça dans mes stages. Mais je trouve que c'est aussi un problème dans le sens où l'habitant, du coup, de cette petite ville, il ne produit pas de richesse, en fait, dans cette petite ville. Il ne s'intègre pas vraiment dans le monde du travail. Donc voilà, je trouve que c'est une question assez intéressante à soulever à ce niveau-là.
Lucas,
le fait d'abolir comme ça les contraintes de lieu en fait des entreprises, parce que avant l'entreprise était pensée qu'en fait comme un endroit dans lequel on allait pour travailler. Là aujourd'hui le lien il est bien plus ténu avec l'entreprise et comme tu disais ça peut poser aussi des problèmes disons psychologiques pour le travailleur. Le fait de pas sortir de chez soi tout simplement.
Oui aussi.
Je sais que pour pas mal de professions libérales, notamment je sais pas moi par exemple les illustrateurs, les graphistes, il y en a beaucoup qui en fait télétravaillent parce que ça n'a absolument aucun intérêt d'aller sur un lieu de travail pour travailler alors qu'on peut aussi bien le faire chez soi, on s'économise le temps de transport, on s'économise plein de choses, mais au niveau psychologique c'est pas forcément génial de systématiquement faire l'impasse comme ça sur le monde extérieur. On a peut-être tendance à aller vers un repli sur soi, ce qui n'est pas folichon, comme on dit.
C'est d'ailleurs le combat de nombreux partis politiques, je pense notamment à Force Ouvrière, qui milite face à la dictature de l'urgence. Selon eux, pour les nouvelles technologies, il nous faudrait des nouvelles règles. Ils proposaient par exemple un temps de travail différé qui est qu'à chaque fois qu'on se connecte par exemple chez soi à sa boîte mail personnelle, ce soit comptabilisé comme du temps de travail. Je ne sais pas si vous, ça vous paraît cohérent ce genre d'initiative ou de règles, Théo ?
Bah si, enfin, ça me paraît assez logique dans le sens où rien que le fait de se connecter, de voir qu'on a reçu un mail, au final ça donne une charge cognitive en fait, qui fait qu'on ne sort jamais vraiment du monde du travail. Donc après ça dépend comment on définit le travail, si c'est vraiment le fait de travailler pour l'entreprise, c'est le fait d'être disponible pour elle. Ça dépend de la définition.
Florian ?
C'est vrai, mais ça redonne au moins, comme tu le dis, la valeur en fait, au travail, à ce qu'on fait, à cet acte de répondre à un mail qui peut paraître anodin. On peut se dire, je peux faire ça, ça me prend 5 minutes, ça ne me dérange pas, c'est hors de mes horaires de travail. Et finalement, je pense que ça permettrait de redonner de la valeur à cet acte qui reste quand même du travail et qui peut faire perdre pied un peu sur quelle est ma vie pro et quelle est ma vie perso.
La limite entre la vie pro et la vie perso, on va continuer d'en parler dans cette émission, juste après une pause musicale offerte par Tom Misch et son titre Water Baby. On écoute ça tout de suite sur Radio Pulsar.
was born a water baby, swimming with these times, the grooves that turn the gray to sunshine. Cause I will live through days that break me, swimming with these times, the grooves that turn the gray to sunshine.
I'm still trying to write the story as I see it. The trouble is when I say it, they don't believe it. They reckon I only say it, but I don't mean it. I'm trying to tell them I only say it if I can feel it. Cause money's tight, maybe tighter than it was before. I'm helping out on a mortgage I really can't afford. Family breaking north, I cover the trips abroad. Shaking, I'm making another loss on another tour. But what I done it for? To see my mother in the sun abroad. I run in the trouble that was coming for. My little brother got the hunger for. All the exact same pain that makes the rain in my stomach pour. So let me paint it broader. This for any dude who's got a daughter. Living off lines like your papa taught. Ain't got no time to be coming for you. Go with the flow of this from the water. Go with the flow of this. Go with the flow of this. Go with the flow of this.
Don't you worry. Your leaves won't grow the same, and people might forget your name. Doesn't matter if they do. Don't you hurry. When the hot coffee pours will stain, and when the Uber left you in the rain, the time will come around to you. Despite the stress of spending so much time alone, cause this geography is keeping me at home. But I don't know the way to go. I move with the flow of this running water, this running water. Cause I was born a water baby, swimming with these times, the grooves that turn the gray to sunshine. Cause I will live through days that break me, swimming with these times, the grooves that turn the gray to sunshine.
Regarde d'autres gens en train de jouer.
Voilà.
Pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie.
Il est 18h19 sur Radio Pulsar et on vient de s'écouter Tom Misch avec le morceau Water Baby. Et dans cette émission, on vous parle toujours du travail à l'ère du numérique. Salut les gars, ça se passe comment pour l'émission de jeudi? Quelqu'un a une idée?
On a fait l'éducation à l'ère du numérique, on pourrait maintenant parler du travail?
Oui, c'est une bonne idée ça.
Florian, tu t'occupes de la com sur Facebook, comme d'hab?
Alors oui, mais si tu pouvais déposer l'image de com dans le dossier sur le Google Drive, ça m'arrangerait.
Je fais ça tout de suite, j'en profite pour vous envoyer le tableur avec la liste des prochains invités.
D'ailleurs, on reçoit qui jeudi prochain?
Et pour le savoir, on vous donne rendez-vous sur Radio Pulsar à 18h jeudi prochain. En attendant, on continue de vous parler du travail à l'ère du numérique. Et le petit échange que vous venez d'entendre est un exemple du genre de conversation que nous pouvons avoir sur Slack, une plateforme dédiée à la communication entre collaborateurs. Sur la page d'accueil, on peut même lire « Slack permet aux équipes de travailler en symbiose et d'optimiser leur productivité ». Rien que ça. Maintenant, Google Drive. J'imagine que si vous êtes étudiant, vous n'avez pas pu passer à côté du service de Google, vous offrant par exemple la possibilité d'utiliser un logiciel de traitement de texte à plusieurs. Je pense même que les lettres ENT pour espace numérique de travail ne vous sont pas étrangères. Alors, chers collègues de Spam, dans cette ère de la dématérialisation, j'aimerais commencer par parler des outils. Slack, Google Drive et autres, quels sont leurs impacts sur notre manière de travailler? Le gain de productivité permis par les technologies numériques, mythe ou réalité? Florian?
Je pense que la première chose qu'on peut dire, encore une fois, et on en parlait en début d'émission, c'est qu'on vend encore une fois nos fesses aux GAFAM, quoi. Google Drive, voilà. Tout est dans le titre.
Voilà.
Et puis, je pense qu'il y a certains services qu'on utilise qui, sans le savoir, étaient des startups qui ont été rachetées par les GAFAM, quoi. Donc, encore une fois, on est un petit peu dévendus.
On est dévendu, mais moi je veux vraiment parler de cette question de du gain de productivité. C'est-à-dire qu'on passe par là, mais est-ce qu'on le gagne vraiment ce temps ? Théo ?
C'est vrai que c'est intéressant ce que tu disais sur la page d'accueil de Slack qui mettait vraiment en avant le côté symbiose des équipes et l'augmentation en productivité qui rapproche les deux. Alors que c'est vrai que c'est pas forcément des choses qui sont en lien. On peut penser notamment aux réunions qui au final ne servent pas à grand chose et qui rapprochent vachement les gens, qui font qu'ils sont tous ensemble, mais c'est pas en parlant tout le temps et en multipliant les échanges qu'on gagne finalement vraiment en productivité.
Lucas.
Mais en même temps, les messages qui sont importants et qu'on avait besoin d'envoyer, alors on a du mal à l'imaginer, mais voilà, il y a 30 ans, on envoyait un courrier. Oui. Un courrier, avec des timbres et tout. Non, mais vous imaginez, vous ? Maintenant, on envoie un mail et c'est réglé. Pour planifier un rendez-vous, pour faire plein de choses. Enfin, voilà, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Et là-dessus, ça nous a permis d'accélérer. Mais comme tu disais, il y a aussi beaucoup en fait de messages qu'on envoie qui sont juste du bruit, qui sont juste voilà du bruit, des choses qui, au contraire, vont même parfois nous empêcher d'aller au fait et vont nous faire perdre du temps.
Théo, tu voulais réagir peut-être ?
Oui, j'imaginais très bien le côté. En plus, on multiplie les échanges inutiles avec la confirmation, la V1, la V2, la V3, la V4.
L'accusé de réception, enfin, voilà. On n'en finit même pas. Quoi. Enfin, c'est, oui.
On reçoit à 21h sur notre temps de pause. On peut parler aussi de. Donc, figurez-vous que pour le DRH, l'ex-DRH de Microsoft, eh ben. Les évolutions, on doit tous passer au numérique. Alors, on peut penser ça bizarre que quelqu'un comme ça choisisse de passer par le numérique, mais pour lui, la compétition n'attend pas. C'est-à-dire que une entreprise qui ne s'y met pas aujourd'hui est déjà en retard. Que en France, pour lui, nous avons beaucoup de retard et que même l'esprit français n'est pas en adéquation avec la numérisation du travail. La plupart des salariés français, d'après son TEDx en tout cas, ne sont pas sont réticents au changement et ne le voient pas comme une opportunité. La numérisation au travail, est-ce une opportunité pour vous ? Florian ?
Je ne sais pas trop dans quelle mesure ça peut se raccrocher à ça, mais c'est vrai qu'en France, je pense qu'on a aussi beaucoup une crainte de ce dont je parlais tout à l'heure, le chômage technologique, donc la peur d'être remplacé par des robots, par des machines. Et donc je me demande si on n'a pas un peu une culture, politiquement parlant, hein, je veux dire, qui nous freine un peu dans cet esprit-là. Après, est-ce qu'on est vraiment tant à la traîne que ça ? J'en sais rien. Je n'ai pas de chiffres sur le sujet, mais...
D'après lui, en tout cas, on l'est. Et d'après les statistiques du cabinet de stratégie de Roland Berger, 12% des métiers actuels seraient amenés à disparaître. Donc, quoi qu'il arrive, on ne devrait pas y échapper. Et tu parlais tout à l'heure des métiers de service. On peut s'imaginer du secrétariat, du recrutement, mais moi, je pense à... Héliographe, l'IA journaliste du Washington Post. Une IA journaliste, est-ce qu'on y croit ? Est-ce que le contenu produit par une IA journaliste est d'aussi bonne qualité qu'un vrai journaliste ? Théo ?
Il me semble que pour tout ce qui est contenu bref, c'est-à-dire les actus très courtes, où au final il n'y a pas besoin de point de vue, il faut juste rapporter ces informations, c'est vrai que ce sont des outils assez performants. Après, si ça peut permettre de soulager le journaliste d'une partie de leur travail qui n'est pas forcément le plus intéressant, on peut se dire pourquoi pas. Bon, c'est vrai que ça met du chômage par contre.
Lucas.
C'est aussi massivement utilisé par Google et Yahoo par exemple dans les Yahoo News, Google News, ce genre de trucs. Mais voilà, on reste sur de la brève et en plus, pardon, c'est relu par des journalistes compétents. C'est juste que ça permet en fait d'accélérer le travail énormément. Et voilà, une intelligence artificielle ne sera capable d'écrire un reportage long, fouillé avec des interviews, avec un point de vue, en fait, avec une certaine patte aussi littéraire. Une IA fera pas du Albert Londres, quoi.
Jamais vous l'aurez entendu dans Spam. Florian, tu voulais
jamais.
Jamais.
Moi, j'attends quand même le moment où c'est des IA qui vont lire les articles écrits par des IA. Et là, je pense qu'on sera foutus, franchement. Non, plus sérieusement, je vois souvent passer sur YouTube une pub pour un espèce de logiciel qui nous permet d'améliorer la façon dont on écrit avec des suggestions et des trucs comme ça. Et je me dis, oui, peut-être.
Oh, il a cité. Oh là là.
Non, j'en ai pas d'autres à citer en plus, je suis désolé. Mais du coup, oui, c'est, en fait, même sans que l'IA écrive elle-même un article, au final, notre façon nous-mêmes d'écrire est changée par les logiciels de traitement de texte et puis ces logiciels plus poussés qui nous proposent des synonymes, etc., pour changer notre façon d'écrire. Donc, on est mort, en fait.
Lucas.
Dans le domaine du journalisme, oui, le numérique a déjà changé énormément de choses parce que Google, aujourd'hui, est presque un deuxième rédacteur en chef qui vient poser sa ligne éditoriale pour justement que l'article, à la fin, il soit référencé. Il faut qu'il y ait une accroche de tant de caractères, il faut que le corps fasse des paragraphes de tant de caractères, qu'il y ait des mots-clés, etc. Il y a déjà tout un travail pré-éditorial qui est poussé par le référencement sur ce genre de plateforme.
Théo.
Mais après, si on sort un peu du monde journalisme et qu'on va par exemple dans l'industrie, par exemple, si on fait, je sais pas, une industrie agroalimentaire, je vois mal comment on imagine une petite industrie dans une petite ville, comment le numérique peut tant changer que ça, parce qu'au final, ce sera des choses qui seront assez coûteuses, au moins dans un très long premier temps, je suppose. Par exemple, tu parlais de la DRH, faite par des algorithmes. J'ai un peu de mal à voir comment une petite entreprise du Limousin pourrait mettre en place à grande échelle pour sélectionner genre deux employés juste pour faire un travail manuel, quoi.
Moi je pense aussi c'est bête, mais dans mes recherches j'ai trouvé des associations de restaurateurs qui se plaignaient contre leur présence numérique non souhaitée. Comme Google, aujourd'hui tout le monde peut noter un service sur Google mal le noter. Et ça, physiquement, ça a un impact. Lucas ?
Ça a un impact direct. Et on a aussi ce phénomène, du coup, chez tous les métiers qui sont ubérisés. Ça marche aussi pour les restos. Si un resto, par exemple, est mal noté, je ne sais pas, moi, sur Uber Eats ou Deliveroo, il se peut qu'il ait tout de suite moins de commandes par là. Mais c'est aussi le cas, par exemple, pour les chauffeurs Uber, qui sont complètement dépendants de leurs notes données par d'autres utilisateurs.
Théo.
Et on voit aussi certaines dérives d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui peuvent aussi arriver dans le restaurant et dire vous m'offrez un plat et je vous mets une bonne note. Comme ça, vous voyez qu'avec ma communauté de 5000 personnes qui me suivent, il y aura 5000 personnes qui sauront que vous êtes un truc de qualité.
Florian.
Pire que ça, je pense, moi j'ai déjà vu ça, des influenceurs qui poussent un coup de gueule à chaud comme ça, mais comme on pourrait tous avoir cette réaction, mais que, je pense qu'on a encore du mal à se rendre compte de l'impact que ça a d'être suivi par des milliers de personnes et un coup de gueule sur un petit resto, un truc comme ça, c'était dégueulasse, j'ai été mal reçu, en story sur Instagram, mais la catastrophe que ça peut être pour un restaurant, quoi. Et je pense que, franchement, ouais, faudrait qu'on fasse gaffe à ce qu'on dit sur Internet sur ces métiers-là. Ouais.
On parle d'influenceurs, et justement, ça, on pourrait en parler dans la thématique du travail à l'ère du numérique. Être influenceur, être vidéaste sur YouTube ou YouTuber, c'est aussi, ça fait partie de ces évolutions et d'un nouveau type de métier qu'on peut avoir. Aujourd'hui, c'est plus facile dans les faits, d'être indépendant sur Internet. Après, est-ce que le niveau de vie suit avec ? Ça, c'est un autre débat, mais Florian, tu voulais réagir là-dessus ?
Non, ouais, ça me fait réagir parce qu'on voit souvent ces métiers-là, mais il y a énormément de métiers qui sont créés par le numérique. Enfin, il y a beaucoup de la gestion de communauté, par exemple, le community management, c'est quelque chose aussi qui existe du fait que le numérique et les réseaux sociaux existent. Et sans ça, ce métier aurait un autre nom et une autre portée. Mais voilà, après, être influenceur et avoir un bon niveau de vie, je ne sais pas dans quelle mesure ça marche pour beaucoup de gens. Je ne sais pas, on a l'impression que...
Oui, c'est ça, on a l'impression.
Et même, des fois, on a l'impression, même pour des gens très connus, et puis puis peut-être que finalement ça marche pas tant que ça.
Lucas.
Et il faut pas oublier ce que c'est in fine d'être influenceur, c'est d'être en gros un panneau publicitaire ambulant. Mmh. On est littéralement payé par des marques pour pouvoir faire la promotion de produits. Donc alors d'accord, c'est une nouvelle forme de métier qui a été apporté le numérique, mais je sais pas si c'est souhaitable. Et si aujourd'hui les gens font, enfin voilà, je sais que peut-être pour la jeune génération ça peut être perçu comme un métier de rêve de devenir influenceur, mais est-ce que voilà, devenir un panneau publicitaire ambulant, un homme sandwich, est-ce que c'est si souhaitable que ça? Je sais pas, ça vaut le coup de se poser la question.
Et mais la question justement aussi dans ces nouveaux métiers finalement, c'est de savoir est-ce que le numérique en apportera autant qu'il en détruit. Ça, c'est une question qu'on pourra que voir, Florian.
Et surtout, est-ce que les nouveaux métiers seront portés par ceux qui ont perdu le boulot qui a été détruit?
Évidemment, parce que si c'est pour avoir des emplois plus qualifiés, moins accessibles, Théo.
Bah après, on peut supposer que la transition, enfin pour les personnes qui sont déjà en emploi, ça risque d'être assez compliqué, mais on peut supposer que la transition avec les générations futures sera peut-être plus facilement avec ce qui est mis en place au niveau du collège-lycée, où il y a vraiment un apprentissage au niveau des métiers de comment s'informer en fait, de comment s'informer et comment fonctionne le web en général, ce genre de choses.
Lucas.
Mais c'est vrai qu'on assiste en fait à une disparition progressive des métiers non qualifiés, des métiers où voilà, avec sans le bac, on pouvait se débrouiller. Aujourd'hui, même devenir technicien sans trop compliqué, comme on va être en fait en lien avec des outils numériques, avec des machines, avec oui voilà, on va devoir faire plein de trucs, et bah tout de suite ça va nécessiter un petit diplôme, un niveau bac plus 2, quelque chose comme ça, le PIX
par exemple.
Qu'est-ce que le Florian?
Et c'est là où ces métiers du web, vidéaste, influenceur, font un peu rêver, je pense, dans la mesure où on a l'impression qu'en fait on n'a pas besoin de diplôme, qu'on peut faire ça à la maison, il suffit de savoir faire un peu de montage, et les fameuses compétences du 21e siècle nous sauve la vie. honnêtement, je ne sais pas où ça va aller tout ça. Après, il y a des formations qui apparaissent du coup pour coller à ces nouvelles modalités du marché du travail, mais faut observer tout ça, je pense. Mais au regard, je pense, de ce qui s'est passé aux autres générations, parce qu'on a l'impression que c'est tout nouveau, tout beau, mais au final, est-ce qu'il y a 50 ans, il n'y a pas autre chose qui a révolutionné le marché du travail et qui a fait peur à autant de gens que nous aujourd'hui? Je ne sais pas.
Théo.
Et en même temps, est-ce que c'est pas, enfin, est-ce qu'il faut avoir l'attitude inverse, s'en méfier, en avoir peur? Parce qu'au final, est-ce que travailler à l'usine, c'est pas aussi, par exemple, aussi violent pour le corps, ce genre de choses? Est-ce que travailler par le numérique ne permettrait pas d'éviter ça?
Se pose alors la question de la libération par la libération du travail. Allons-nous être libérés du travail grâce aux nouvelles technologies? Florian.
Bah c'est là où c'est pervers, c'est qu'on a l'impression qu'on est libéré du travail. On se dit, ah, le télétravail, la révolution du 21e siècle, et au final, ça apparaît juste plus sournoisement, je pense, pour l'instant. On n'en est pas libéré, mais on a appris à l'aimer à un tel point que finalement, on a l'impression qu'il n'est plus là, mais on l'incarne totalement, je pense.
Lucas.
À ce propos, en 2018, le gouvernement en fait, pensait au télétravail comme une solution pour limiter les arrêts maladie. C'est-à-dire que voilà, le travail, voilà, le télétravail, c'est aussi en fait, alors ça peut être perçu comme une libération, mais c'est aussi le plus insidieux d'une certaine manière pour venir vous faire travailler alors que vous devriez ne pas le faire.
Mais peut-être qu'on perçoit ça comme une libération parce que c'est le même endroit, quelque part, le numérique, c'est le même endroit où on y va pour s'amuser, pour y passer du bon temps. Et pour travailler, c'est peut-être ça, ce côté libérateur. Théo, tu voulais réagir ?
Oui, je voulais réagir parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire du télétravail vraiment pour un truc, une entreprise ou un truc comme ça. Mais au final, pour l'avoir testé, c'est assez... J'ai testé pour vous le télétravail. C'est assez bizarre parce qu'en fait, c'est vraiment, on ne fait aucune pause. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y a aucun moment où j'étais vraiment déconnecté de mon travail parce qu'au final, comme je n'avais pas bougé de chez moi depuis le matin, j'ai commencé plus tôt parce que je n'avais pas le transport. Et au final j'ai terminé plus tard et surtout j'ai pris en fait en mangeant, comme j'avais pas l'occasion de me poser avec mes collègues, ce genre de choses, bah, du coup je travaillais aussi parce que j'étais en mode bah, de toute façon faut que je travaille.
Mais ce qui est fou avec le télétravail, c'est qu'il arrive des initiatives comme des espaces de coworking où finalement le travail qu'on a à la maison pour pas le faire chez soi, on va le faire dans un espace de coworking. Et au final, on n'est plus chez soi.
On est au travail.
Voilà. On va passer maintenant à Joey Dosik avec le morceau Don't Want It to Be Over. Mon anglais ne s'améliorera pas d'émission en émission. On s'écoute ça tout de suite.
Even though it hurts so bad, I still think that you're the best I've had.
No, it's killing me inside. Ain't gonna try to hide from you and those things you do. I can stop thinking about your smile. I guess forever always takes a while.
I can't keep it all inside when I could be calling out your name.
Sur internet, suis-moi, on va t'équiper.
Vous êtes toujours à l'écoute de Spam sur Radio Pulsar et on vient de s'écouter Don't Want It To Be Over par Joe Haytosik.
C'était mieux là. C'était ouais. Mieux.
Maintenant, on va se demander comment penser le travail à l'ère du numérique. Et bien, cette question, c'est à notre philosophe de l'émission d'y répondre. Aujourd'hui, Lucas, tu vas nous parler de ce que le numérique a modifié dans nos manières de nous exprimer au travail.
Alors, le numérique a, pendant ces 30 dernières années, engagé la société dans un processus de transformation générale qui touche presque tous ses aspects. Parmi les domaines bouleversés, le monde du travail ne fait pas exception. Et oui, les avancées technologiques du numérique s'invitent toujours plus profondément dans nos maisons, dans nos institutions, mais aussi dans nos entreprises et dans nos manières de parler. En effet, le numérique a tendance à abolir les contraintes liées au temps, au lieu, mais aussi dans l'organisation même du travail. Mais ces mutations dans l'organisation du travail vont donner lieu à d'autres transformations au sein même du langage.
Dis Lucas, après l'émission, il faudra qu'on se book un conf call. Il faut vraiment qu'avec les collabs, on cible mieux notre com sur les digital natives.
Vous voyez très bien de quoi je veux parler. La transformation que le numérique a entraînée dans le monde du managériat et de l'entrepreneuriat est une mutation locale mais très forte des habitudes linguistiques de ses locuteurs. Oubliez employé, dites plutôt collaborateur. Qui parle encore de collègues aujourd'hui alors que nous sommes tous ensemble des coworkers? Un groupe devient un cluster et ainsi de suite. Si demain au boulot, quelqu'un vous demande de trouver des solutions disruptives et agiles à la création d'un MOOC sur l'innovation et l'entrepreneuriat et que vous n'avez rien compris à cette phrase, c'est que vous n'êtes pas encore prêt pour la révolution lexicale du monde du travail du 21e siècle.
C'est vrai que ces temps-ci, certaines personnes dans les médias parlent volontiers d'une novlangue. Mais est-ce que cette comparaison avec Orwell fait sens ?
Oui et non. Enfin, c'est un peu compliqué. Déjà, pour restituer le contexte du concept de novlangue, il faut rappeler d'où il vient. La novlangue, c'est un langage fictionnel dérivé de l'anglais qui joue un rôle dans l'univers de 1984, le grand roman dystopique de George Orwell. Orwell, dans ce roman, il cherche entre autres à dénoncer l'emprise des totalitarismes sur l'esprit des individus. L'un des moyens mis en place par le régime totalitaire pour contrôler les esprits dans le roman, c'est de créer une nouvelle langue en parallèle de l'anglais qui serait appauvrie afin de ne contenir que des termes qui seraient favorables au régime. Le but ici, c'est que les locuteurs de cette langue ne parviennent pas à se formuler certains concepts qui pourraient à terme nuire à l'ordre totalitaire du parti. Seulement, cette façon de considérer que les représentations mentales sont entièrement dépendantes du lexique utilisé et que les catégories du langage, voilà, les représentations mentales sont entièrement dépendantes du lexique utilisé des catégories du langage, elle est erronée. En philosophie du langage et en anthropologie, cette théorie, selon laquelle on ne peut penser, ce qu'on peut penser est dépendant de ce qu'on peut dire, c'est l'hypothèse Sapir-Whorf. Et cette hypothèse, elle est au cœur de la philosophie structuraliste et elle a donné lieu à de nombreuses controverses dans le milieu universitaire, principalement aux États-Unis. Or, la communauté scientifique est aujourd'hui assez d'accord pour dire qu'elle est invalide, cette hypothèse, selon laquelle tout ce qu'on peut penser, c'est en fait tout ce qu'on peut dire. Pardon.
C'est
compliqué, c'est insupportable.
Nous voilà rassurés. Donc, ça veut dire que parler comme un enfant de la Startup Nation ne va pas influer sur ma façon de penser.
Alors oui, mais c'est un peu plus compliqué que ça. On voit maintenant clairement que ce nouveau vocabulaire d'entreprise n'est pas une novlangue au sens originel du terme, et qu'en tout cas, elle ne conditionnera pas notre façon de penser. Mais si on s'intéresse sociologiquement à cette transformation du langage, eh bien, elle fait sens. En effet, toutes les langues du monde sont soumises à des petites mutations ponctuelles en fonction des groupes sociaux donnés. Ainsi, parler d'une certaine façon avec un certain vocabulaire, ce sera le signe d'appartenance à un groupe. Donc mon cher Alexandre, si tu parles comme un start-upper fou, cela ne va pas modifier ta façon de penser. C'est qu'en fait, tu pensais déjà avec ce bagage idéologique et que l'adoption de ce nouveau lexique est un symptôme du désir d'appartenance à ce nouveau groupe. En tout cas, notez bien que voilà, les mots n'induisent pas en soi des idées, mais c'est bien un phénomène social que ça induit. Le numérique, dans cet exemple, n'est en fait que le catalyseur qui, au sein d'un environnement de travail, va cristalliser le statut social du locuteur.
Merci Lucas pour ta chronique. Je pense que j'aurais des difficultés à épouser l'anglais comme un startup, comme quelqu'un de la Startup Nation. Théo, tu
Oui, je trouve ça intéressant ce sur quoi tu as fini, parce que c'est vrai que c'est un milieu, le milieu de la startup, c'est quand même un milieu de travail. Et je pense que tout milieu de travail a besoin de se légitimer en fait, avec son langage, avec un langage spécifique, comme le langage médical peut avoir le sien, ou même d'autres milieux, quoi.
Ça peut peut-être aussi avoir un effet d'exclusion, mais en fait, je parle comme ça, donc j'appartiens à ce groupe, donc tu ne me comprends pas. Ça peut aussi être un vecteur de violence en fait, symbolique par rapport à quelqu'un qui serait atteint d'analphabétisme numérique.
Mais après, est-ce qu'on peut pareillement dire à un médecin « Oh, ce que vous dites, c'est quand même des mots vachement compliqués. » Bon, c'est vrai que ça dépend de l'interlocuteur, évidemment, il faut prendre en compte, mais il ne faut pas non plus... que ce milieu n'a pas le droit d'avoir ses propres expressions.
Bien sûr, là où c'est peut-être un petit peu pervers, c'est que du coup, ces nouvelles expressions, souvent, en fait, elles viennent en remplacer des expressions qui existaient déjà en France. Parler de collaborateur, ça a quand même une connotation qui n'est pas neutre.
Avec des co-collaborations, des co-working, des co-machins. Ouais.
On ne s'énerve pas.
Ce nouveau vocabulaire, j'ai l'impression qu'il peut... faire apparaître de nouvelles pratiques. J'avais vu sur un article tout à fait sérieux perdu dans mon fil de l'actualité Facebook la notion de coworking avec
le coworking, j'ai vu
avec
ça aussi.
Ses collaborateurs, je n'invente pas.
Les mecs ont inventé la promenade.
En fait, le coworking, c'est tout simplement se balader avec un de ses collaborateurs pour discuter du projet.
Ah, du travail. J'avais vu ça.
Eh oui. Donc voilà, est-ce que le langage de demain va affecter nos façons de travailler, Florian?
Ça dépend si la connerie de demain va affecter notre façon de travailler, en fait, surtout. Mais je sais pas si on peut vraiment, le co-walking, je sais pas si ça fait ses preuves. Bon, après, c'est vrai que c'est bon pour la posture, puisque rester assis à un bureau toute la journée, c'est pas forcément très bon. Donc, on peut envisager de marcher ensemble après de là à dire qu'on co-walk. je suis pas adepte.
Moi, j'invite tous les membres de Spam à venir co-walker après avec moi. Ça va être fou.
Nous allons co-walker ensemble après l'émission. Dans un monde où le numérique va être indissociable du travail, on peut imaginer quels seront les impacts sur le management et sur l'entreprise moderne. C'est alors qu'on peut penser à l'entreprise libérée. L'entreprise libérée, c'est l'idée, c'est une entreprise basée sur un climat de confiance entre collaborateurs, coworkers et une vision commune de ce que l'entreprise doit être. Alors comme ça, ça fait rêver, et cette vision de l'entreprise, si elle est rêvée par certains, peut être moquée par d'autres. On écoute la vision du collectif de vidéastes Yes Vous Aime et on en parle juste après.
Pour enquêter sur les nouvelles méthodes de management des entreprises, j'ai réussi à me faire embaucher comme salarié d'une toute jeune start-up, Youpi, dirigée par un jeune PDG connu pour son caractère extraverti.
Vous êtes les meilleurs.
Excellent lundi à tous!
Attendez!
C'est l'heure de la danse de la joie.
Métro, rigolo, dodo, enquête sur ces entreprises qui veulent vous faire aimer votre travail. Engagé chez Youpi comme codeur informatique, je tente d'assurer ma couverture en imitant mes collègues. C'est-à-dire en fixant mon ordinateur et en tapant n'importe quoi.
Yo !
Ah, c'est quoi ça ?
Il est chelou ton code.
Ah, c'est parce que c'est un nouveau code qui s'appelle C. Plus. Plus. Plus.
Ok, cool.
Okay.
Au bout de 3 heures, je me rends compte que faire semblant de travailler est encore plus ennuyeux que de vraiment travailler. Et les nombreux jeux situés devant moi m'incitent de plus en plus à faire une pause.
Eh, tu veux faire un ping-pong ?
Personne ne veut jouer avec
c'est
moi.
Parti.
Et alors que de tristes souvenirs de collège remontent à la surface de ma mémoire, un collègue s'adresse à moi.
Psst.
De quoi ?
Les jeux.
On n'a pas le droit de jouer ?
Si.
Je comprends pas, on a le droit de jouer ou on n'a pas le droit de jouer ?
Ok, sur le principe, oui, on a le droit de jouer au ping-pong. Le problème, c'est qu'il y a un algorithme qui mesure notre temps de pause en fonction de l'inactivité de notre poste de travail. Et s'il constate que tu fais partie des 20% les moins productifs de la boîte, tu reçois une notification qui t'informe que t'es viré.
Oh merde.
Peu de temps après, nous recevons un tweet qui nous informe que le pot de départ de Louis se tiendra le soir même.
Alors, mes chers collègues de Spam, est-ce que l'entreprise Youpi vous donne envie ? Voulez-vous travailler à Youpi ?
Ah bah oui, moi j'achète, hein. Franchement.
Une table de ping-pong, franchement, ça sera tout sport. Hein, ouais.
Le rêve. Moi, je trouve que je connaissais pas du tout, du coup, le collectif ni cet extrait. Il y a des choses qui sont mélangées un peu, je trouve, dans cet extrait, ce qui est un peu dommage parce que l'entreprise libérée, c'est quand même un concept qui va au-delà de ce qu'on a pu voir sur le tennis de table.
C'est une caricature.
Qui est plus dans ce qu'on appelle le happy management, donc qui est légèrement différent, et même si c'est des approches un peu qui se côtoient, on est sur des philosophies différentes qui, bon, sont pas toujours très bien interprétées. Et je pense qu'on a des entreprises comme Youpi qui existent, hein, malheureusement, et qui part du postulat qu'un employé heureux est un employé plus productif, ce qui est un postulat qui est vrai. Après, est-ce que le mettre en place avec des tables de ping-pong, c'est la bonne solution ? Je ne pense pas. Mais l'entreprise libérée, c'est quand même porté aussi par plus d'horizontalité, oui, dans l'entreprise, donc moins d'hierarchie, et c'est des choses qui sont théorisées comme étant plus appréciées par les nouvelles générations qui veulent moins de patrons, qui veulent plus prendre de responsabilités et avoir plus de liberté dans leur travail. Donc, pourquoi pas, moi, l'entreprise libérée, pourquoi pas, même si ça a quand même le désavantage, donc, bah, de faire sauter beaucoup de postes de management, hein, puisque bah, toutes les strates entre le grand boss et le travailleur sautent, et puis augmentent les responsabilités de tout un chacun qui, du coup, deviennent leur propre chef, entre guillemets.
Théo ?
Ouais, du coup, c'était quelque chose que je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris dans l'entreprise libérée, c'est qu'on parle de collaborateurs et du coup, on ne parle plus vraiment de N+1, enfin de personnes au-dessus, de personnes en dessous, mais du coup, est-ce que ça sert juste à gommer la hiérarchie ou c'est quelque chose qui est... Donc, et qui est vraiment appliqué comme ça, de façon à ce qu'il n'y ait plus vraiment de hiérarchie entre les personnes. Enfin, est-ce que vraiment le stagiaire qui vient d'arriver est aussi bien traité et aussi bien important que les personnes qui sont là depuis le début et qui ont aidé à fonder la boîte ? J'ai du mal à voir ça appliqué en vrai, en fait.
Bah, je pense que ça dépend vraiment des boîtes qui l'appliquent. Je pense qu'il y a des exemples où ça marche et c'est ultra horizontal et tout le monde est au même niveau et compagnie, mais je pense que ça reste quand même... D'autant plus qu'on a une culture où on a l'habitude d'avoir un supérieur hiérarchique et compagnie, et donc c'est encore, je pense, difficile à mettre en place aujourd'hui. Il y a peu d'exemples, en tout cas, où ça marche à 100%.
Je pense qu'il n'y a pas une façon de faire. Les entreprises ont chacune leur interprétation de l'entreprise libérée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, c'est la confiance. Et c'est que je pense qu'on mise sur cette confiance sur les salariés pour dire ok, là, on me fait confiance, j'ai des responsabilités, je vais faire tout en œuvre pour respecter ce que je dois faire, quoi. Théo ?
Mais sinon, c'est intéressant ce qu'ils disent là dans l'extrait sur la table de ping-pong, sur le fait qu'il y ait ces jeux récréatifs qui s'invitent dans l'espace de travail. Oh. Je pense que ce qui est le plus présent, c'est surtout le babyfoot. Et notamment, là, je viens de trouver un article sur babyfootvintage.com. Donc, avoir la source qui dit qu'en gros, ils avaient regardé les offres de job pour voir si elles parlaient de jeux présents dans leur environnement. Et que dans 50% des offres de start-up, ils avaient vu qu'il y avait la mention d'un jeu de babyfoot dans leurs locaux.
Lucas ?
Bon, au-delà du gag du jeu de baby-foot, ce qui est, je trouve, plus que bénéfique, c'est que voilà, les entreprises pensent au bien-être de leurs salariés, tout simplement. Et cette nouvelle organisation du travail, elle met le bien-être du salarié au centre de ses préoccupations. Alors, je ne sais pas si ça marche vraiment ou pas, parce que c'est assez récent, en fait, ce genre d'initiative. On ne sait pas à long terme les effets que ça a concrètement, mais oui, voilà, mettre le bien-être au centre de l'enjeu du travail, c'est bien, et ça permet aussi de désengorger tout ce qui est lié aux problèmes psychologiques au travail, la médecine au travail, tout ça. C'est une bonne initiative.
Florian, très rapidement.
Ouais, pour finir, malheureusement, je pense que la question que ça pose de mettre un baby-foot sur un espace de travail, c'est est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de réfléchir à une solution pour vraiment réduire le stress d'un travailleur plutôt que de lui dire, allez, va faire 5 minutes de baby-foot et puis après retourne à ton travail super stressant. Je pense que des fois, ça masque un peu la vraie question du stress au travail.
Et je pense à mon carrefour de Fouesnant où j'ai travaillé, où il y avait une table de ping-pong.
Ça
m'a pas rendu mieux. Ça n'a pas rendu mon travail plus heureux. On arrive à la fin de l'émission, mais avant de se quitter, on va passer à l'agenda des événements numériques de la semaine. Alors si vous habitez à Lusignan, sachez que dès ce soir, à l'espace 5, je pense que c'est l'espace 5 et pas l'espace V, à 20h30 aura lieu la conférence des gigaoctets dans l'espace, animée par la vidéaste vulgarisatrice Alice Thomas. On devrait y parler big data, algorithmes et astronomie. On vous a parlé de travail toute l'émission, alors si ça vous a motivé, vous pouvez vous inscrire au Startup Weekend qui commence demain et ça se déroule à Cobalt. Pour en parler brièvement, vous avez 54 heures pour monter votre startup. C'est ouvert à tout le monde et c'est en partenariat avec Google for Startup. Pour finir, si vous êtes un adepte de l'open source, l'espace Mendes France organise à Cobalt une introduction au logiciel de publication assisté par ordinateur Scribus pour vous permettre de créer flyers, affiches et magazines. Ça a lieu mardi 19 novembre à Cobalt. Pour en savoir plus, rendez-vous sur emf.fr. En attendant la prochaine émission, on vous rappelle que celle-ci et les précédentes sont disponibles en podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et les autres. On vous laisse avec l'équipe de Glitch et le morceau Don't Quit Your Day Job.
Allez, on va t'entraîner.
Par Little TV. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même onde. Salut.
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 aujourd'hui c'est un petit peu compliqué pour y avoir accès, mais demain, Internet intégrera votre télé